Bonsoir Isabelle Figueredo, on est avec vous effectivement pour parler entre autres de votre dernier livre, Un chien au milieu du chemin, aux éditions Chandaigne et Lima. Anne-Maria Binet, je ne vous représente pas. Et la première question que je voudrais vous poser dans le cadre de cette journée exceptionnelle, c'est j'aimerais savoir quel rapport vous avez particulièrement avec la langue portugaise.
Je veux présenter un peu et dire ceux qui sont ici, que je suis très contente d'être avec vous et d'avoir l'auditoire presque plein de gens. Mais ça, c'est bon pour moi. Quelle est la relation avec ma langue ?
Vous, quelle relation avez-vous avec le portugais ? Vous parlez français et je vous en remercie.
Oui. Bien, tous les auteurs ont une relation avec sa langue. Les Français, la phonétique, c'est important pour écrire. La phonétique, elle transmet la rage, l'amour, la tendresse, la violence aussi. C'est la phonétique. La phonétique des mots nous aide à chercher des émotions, des vibrations littéraires. Alors, ma relation avec le portugais, portugais que j'écris, c'est une relation de quelqu'un que lui connaît très bien. J'ai bien lu quand j'étais une petite fille. Et toute ma vie, je suis en rapport avec la littérature parce que j'ai fait beaucoup de choses avant d'être écrivaine.
Écrivaine ?
Oui. Écrivaine. J'ai été professeure du lycée, j'étais journaliste. Mais je ne me sentais pas libre. Et quand j'ai commencé à écrire, je sentais que oui, ça c'est mon lieu. J'appartiens ici. Ici, je peux utiliser les mots que je veux, comme je veux. Et ma langue, elle est très importante pour moi. Vous les Français, vous réclamez, comment dire? Vous réclamez beaucoup de la langue portugaise. Ça, c'est vrai, non? Vous disiez que nous avons beaucoup de ch. Je veux détruire l'idée bizarre que vous avez du portugais. Les ch sont les s. Les s. Par exemple, le consul a dit le mot les restes. Il y a quelques minutes, il a dit le mot les restes. Pour nous, c'est les restes. Et le S au milieu, il devient un ch. Et aussi, à la fin des mots, par exemple, je veux un mot pareil avec le français pour avec un S final. Reste touche. Ce sont deux S. Alors quand vous écoutez les Portugais dire beaucoup de ch, ils disent les S. Ce sont les S. Et les en, comme par exemple coração, cœur, c'est un phonème qu'il n'y a pas en France.
Mais parce que le portugais est connu pour ça, pour avoir des phonèmes particuliers.
Oui.
Plus que les autres langues d'une part.
Oui, oui.
D'autre part, des phonèmes qui n'existent nulle part ailleurs. qui donne alors, apparemment aussi
oui.
une plus grande facilité pour apprendre d'autres langues.
Mais ça me gêne quand les Français, surtout les Français, mais aussi les Anglais et les Allemands, écoutent le portugais, une langue romanique, très pareille avec le français en ce qui concerne la grammatique. Je n'aime pas qu'on nous écoute d'une forme bizarre, comme les Russes. Nous ne parlons pas les Russes, c'est pas le russe. Le che que nous usons, c'est le S. Et ça, c'est ça que je veux.
Ça, c'est important. Et vous, Anna Maria Binet, quel rapport avez-vous avec le portugais?
Quel rapport? Ben, rapport, c'est ma langue maternelle, pour commencer. Et donc, le français est une langue d'adoption. Mais bon, c'est une langue, je vous le disais, qui a toujours été très présente dans ma famille au Portugal, puisque le français était la langue que tout le monde, tous les gens qui avaient un peu d'études et d'éducation parlaient, écrivaient, lisaient. Le français était une langue extrêmement importante. Moi, j'ai eu le français en langue 1 au lycée, dès le début du lycée. Et dans ma famille, tout le monde, de temps en temps, parlait en français. Il y avait des livres en français chez moi, etc. Donc, c'était une langue qui était vraiment la langue de la culture, la langue de la diplomatie pendant très, très longtemps. Les choses ont changé. Les enfants de mes amis, portugaises et portugais, en fait, ne parlent pratiquement plus français. Ils parlent surtout l'anglais. Voilà, les temps ont changé et les langues suivent le cours de l'histoire et surtout le cours des progrès technologiques, parce que c'est ça qui a défini la...
Mais ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire que quand vous êtes en train de nous dire que le portugais était utilisé, pourquoi? Plutôt pour le quotidien, parce que le français était censé être utilisé une représentation?
Non, pas vraiment. Enfin, le portugais était notre langue. Tout le monde en parlait portugais, on faisait nos études en portugais. Voilà.
Donc comment vous voyez-vous cette langue, si vous voyez le français comme la langue un peu diplomatique finalement, le portugais, vous en avez quelle vision?
Le portugais, d'abord, c'est une langue romane, ce dont les gens n'ont pas toujours conscience, par exemple ici en France, qui pensent que c'est une langue un peu exotique, avec des sons exotiques. En fait, le portugais est plus proche du latin que le français. Et par exemple, je suis capable de très bien comprendre le français ancien. Parce que justement, il était très, très proche du latin. Donc d'abord ça, c'est une langue romane. C'est une langue qui s'est développée dans une zone de la péninsule ibérique, la Galice et le nord du Portugal, où il y avait ce que nous appelons en linguistique un substrat, c'est-à-dire qu'il y avait des langues, une langue qui était parlée dans cette zone-là et que le latin est venu se superposer. Et donc, ça a donné ce qu'on a appelé d'abord le galaïco-portugais et ensuite le portugais. D'autres langues se sont développées en péninsule ibérique, le castillan, qui a fini par être prépondérante pour des raisons politiques. L'histoire des langues est une histoire culturelle, politique, économique. Et donc, la spécificité du portugais, c'est d'une part, ça, c'est pas une spécificité, c'est une langue romane. Mais d'autre part, qu'étant donné l'histoire du Portugal, et le fait que les Portugais sont allés partout dans le monde, en fait, il y a partout dans le monde des pays où l'on parle portugais décliné d'une façon différente. C'est-à-dire que le portugais du Brésil a un autre accent, a des mots qui sont d'origine africaine, d'origine indienne. Vous avez les Portugais des pays d'Afrique, dont vous parlerez certainement, et qu'elle connaît très bien, Isabella, qui sont des Portugais où il y a un apport, justement, des langues africaines, des langues locales. Vous avez un pays comme le Cap-Vert, qui a un créole très, très important. Donc, le portugais, au fait, il y en a un peu partout dans le monde, décliné d'une façon différente. D'où l'importance, dont a parlé Monsieur le Consul, d'où l'importance, évidemment, du portugais dans le monde, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent portugais dans le monde.
Et on l'a dit, près de 300 millions de locuteurs. Et alors, mais justement, alors venons-en en fait à ce portugais particulier, celui de votre livre, celui de ces personnages et de vos personnages précédents. Dans ce livre, vous parlez justement des retornados.
Oui, parce que les retornados, ça veut dire en français quelque chose comme...
Ce sont les gens qui sont, en fait, les Portugais qui sont rentrés sur des pays africains qui étaient portugais, qui sont devenus libres, c'est-à-dire indépendants, en 1975, après la révolution des Ayers.
Oui. Vous savez qui les Portugais avaient des colonies en Afrique, comme vous avez l'Algérie, non ?
Absolument.
Et les Anglais aussi. Et nous, les Portugais qui vivaient en Afrique, après l'indépendance, l'idée, c'était de rester. Mais ce qui s'est passé, c'est que la violence des peuples libérés par les mouvements de libération a été très forte contre les Portugais. Et même si nous voulons rester, ce n'était pas possible. Même moi, j'étais une petite fille, je voulais rester. Mais j'ai supporté des moments de presque viol. Et j'ai compris que je ne pouvais pas rester en Afrique. Je devais aller au Portugal. Alors, les retornados, ce sont ces gens qui sont venus d'Afrique pour le Portugal sans rien, parce que nous ne pouvions apporter rien de ces pays, parce que nous avons été les exploiteurs. Alors, on ne pouvait apporter rien. Et c'était une époque très difficile pour nous les Portugais qui vivaient en Afrique. Et au Portugal, nous n'avons pas été bien reçus parce que nous étions évidemment les colons, les exploiteurs. Est-ce que j'ai dit bien ? Exploiteurs. Mais c'était pour nous, ceux qui ont perdu tous. Imaginez que maintenant, vous avez les Allemands envahissent la France et vous perdre tout, votre maison, la voiture, tout. Alors, ces retornados, ils sont revenus au Portugal. Moi, je n'ai pas revenu parce que je suis née au Mozambique. Alors, mais mon père et ma mère, ils sont revenus sans rien. Et ils ont dû construire une autre vie, une nouvelle vie, en silence, parce que nous n'étions pas bien reçus par les Portugais aussi. N'oubliez pas qu'on était en 70. Le climat était vraiment marxiste-léniniste. Et on doit être marxiste-léniniste pour appartenir au courant. Mais j'ai échappé un peu à votre question. Non.
Je vous en prie. Alors vraiment, je vous en prie. Oh. Je disais que dans votre livre, il y a, entre autres, c'est pas du tout les personnages principaux, mais dans ce livre, Un chien au milieu du chemin.
Mais il y a des retornados à tous mes livres.
Dans tous vos livres, il y a. Je fais référence à ce livre-là pour parler particulièrement là dans celui-là. Vous faites référence à la difficulté d'être arrivé. Vous le dites dans le.
Oui. Particularité d'être retornado, c'est une fente. Fente? Fenda.
Ah, une fente.
Une fente dans ma vie et dans les vies des autres Portugais. Parce que la situation politique, elle nous a voler notre vie, notre orgueil, et Et vraiment, j'ai perdu mes parents, par exemple. Mes parents, ils m'ont envoyé au Portugal le 70, 75, 75, et pour étudier et pour être en sécurité. Et j'ai été à part de mes parents par 10 ans. Ils ont resté en Afrique à travailler dans une usine électrique, un barrage contre le Pacifique. Pas le Pacifique. Mais il a été travaillé dans un barrage, lui et ma mère. Et j'étais au Portugal seule, vivant dans la maison chez ma grand-mère, mes tantes, des collèges. J'ai fait un parcours toute seule, sans parents, toute ma adolescence. Et ça, il y a quelque chose de trauma là. Parce que maintenant, je suis en train d'écrire un autre livre. Et je regarde tous ces morceaux que j'ai déjà écrits et que je veux continuer, enlarger, créer d'autres personnages. Et tous les morceaux ont des rapports avec Afrique. Et je pense, mais moi, je vais continuer à écrire sur Afrique toute ma vie. Et peut-être oui, peut-être je vais le faire, je ne sais pas. Parce que tous les morceaux de contes, de nouvelles, il y a de l'Afrique là. Alors il y a quelque chose dans moi que vient de ce temps-là, de cette
cette coupure, cette faille.
Cette faille. Mais c'est T ou D?
T.
T.
C'est avec un T.
Un T. Ok. Cette faille.
Cette faille avec deux ailes.
Oui.
Dans votre livre, on le voit bien, et donc j'en profite pour dire que Ana Maria Binet, vous êtes aussi une grande spécialiste de Fernando Pessoa. On peut le dire quand même. Il y a, et donc à cet endroit-là aussi, vous vous rejoignez, et ce n'est pas indifférent à la langue portugaise, il y a, malgré la violence dont vous parlez, il y a une grande poésie dans l'utilisation du verbe d'une part, et puis dans votre histoire même, poésie qui n'est pas éloignée évidemment de l'univers de Pessoa, moins qu'on puisse dire. Et donc, il y a quand même dans l'univers portugais, c'est important ça, une vision poétique du monde.
Ah oui, les Portugais, d'ailleurs au Portugal, on aime beaucoup la poésie, on édite, on publie de la poésie, les gens lisent de la poésie. Et je dirais que là, il y a une sorte de similitude avec les peuples arabes. La culture arabe est une culture où la poésie est extrêmement importante. Peut-être que c'est un des héritages qui a été laissé au Portugal par, en effet, la culture arabe au Moyen-Âge, puisque la péninsule ibérique a été, en effet, sous une influence énorme arabo-musulmane. Et en fait, au Portugal, donc, il y a cet amour de la poésie. On l'aime beaucoup, on en écrit beaucoup, même de nos jours. Hein, même de nos jours, il y a encore beaucoup de poètes qui publient. Et donc, voilà. Et donc, on attend un petit peu, même dans des romans, comme ceux d'Isabel de Figueiredo, on attend beaucoup que la prose ait quand même une certaine qualité poétique. On apprécie beaucoup cela. Dans les romans d'une d'écriture que j'appellerais hypercontemporaine, c'est-à-dire celle qui s'écrit maintenant. Celle qui s'écrit actuellement.
Et sur laquelle vous écrivez vous-même en ce moment.
Oui, sur laquelle je travaille en ce moment.
Et je voudrais ajouter autre chose. Dans ce livre, on le voit bien, et dans d'autres livres portugais également, il y a autre chose qui semble très important, c'est à la fois le climat politique et l'importance de la religion.
La religion, bon, on peut le comprendre. C'est un pays qui est encore quand même très religieux.
Catholique,
très catholique. Il y a quelques protestants, surtout dans la région de Porto, mais très peu. Et Et en fait, la politique aussi. Mais enfin, bon, l'écriture est un acte politique aussi. Hein. C'est naturel. Il faut dire aussi qu'il y a eu tout ce traumatisme dont parle Isabelle au moment de la décolonisation, la guerre dans les colonies. La guerre dans les colonies, c'était quand même depuis les années 60 jusqu'en 75 même. Donc voilà, c'est-à-dire qu'il y a eu des générations de jeunes Portugais qui sont partis. Il y avait un service militaire de 4 ans en tout. Voilà, c'est toute une génération et même plus d'une qui a été touchée par cela. Donc on commence à en parler de plus en plus. Très souvent, les gens n'en parlent pas. Il y a un phénomène un peu, c'est très difficile d'en parler. Donc ce sont peut-être les romanciers qui en parlent le plus et le mieux. Il y a eu Lobo Antunes qui est mort il y a quelques semaines, un grand écrivain portugais qui a été absolument psychiatre, qui a été absolument traumatisé par son service militaire en Angola, pour ce qui est du cas d'Antunes, et qui a écrit, toute sa vie, a écrit autour de ça. Presque oui. Tous ses romans, en fait, parlent de ça ou sont influencés par ça. Donc ça, c'est quand même quelque chose, en effet, qui est très important au Portugal et que l'on peut comprendre étant donné ce contexte politique récent, après tout, hein, très récent.
Et alors, dans ce livre, donc je le disais, en fait, il y a vos deux personnages qui sont vraiment des protagonistes très importants, mais autour de cela, il y a toute une ambiance à la fois poétique, à la fois mutique, puisque ces deux personnages se parlent, mais...
Mutique.
Mutique, silencieux.
Ah, oui.
Il y a une importance du silence, oui, de ce qui ne se dit pas, et qui fait écho à ce que vient de dire Ana Maria Bin.
Oui, c'est vrai. Parfois, j'essaie de connaître ce que j'écris, parce que pour moi, c'est aussi une surprise. Mon écriture, elle me surprend aussi. Et je crois que parfois je suis très lyrique et parfois je suis très violente. Alors je suis un peu bipolaire.
Mais restez-le surtout.
Mais il le faut. Parce qu'il y a des situations dans lesquelles je veux voler un peu. Et ça me vient du lyrisme. Et parfois je veux me battre ou battre à quelqu'un. Alors il me vient la violence. Alors, je suis très honnête quand j'écris. Mes propres sentiments sont dans mon écriture, oui.
Et il y a donc tout un univers artistique très fort dans ce livre, puisque les parents du narrateur, en fait... C'est trop dur ce que je suis en train de vous dire.
Oui.
À comprendre.
Pour moi, il a été trop dur d'écrire.
Ce livre-là.
Oui.
Parce que.
À cause de l'orphanage.
Orphelinage.
Orpheline.
Vous les avez perdus.
Oui. Oui, c'était difficile pour moi de créer cette situation pour José Viriato, qui était un petit enfant. Et qui perd ses parents. Et j'adis le moment d'informer le personnage José Viriato qu'il a perdu ses parents. Le mot mort, il n'existe pas dans le livre.
Il n'existe pas. D'ailleurs, effectivement, c'est des scènes assez bouleversantes. Mais le fait d'écrire aussi à la place d'un homme, le narrateur est un homme. Vous décidez d'écrire en étant un homme.
Oui.
Pourquoi?
Parce que je veux. J'ai écrit autant que femme dans les autres romans. Et je veux essayer mes capacités. Je veux être un homme. Je veux écrire comme un homme. Je veux sentir comme un homme. C'est difficile de penser comme un homme pour moi. Mais je veux le faire. Je crois que le personnage José Viriato, il est un homme, mais il n'est pas alpha.
Ah non, ça, il n'est pas alpha
non,
du tout, ça,
non,
c'est sûr.
Non. Mais
très poétique.
Oui, c'est poétique, oui, il est très poétique. mais je veux essayer d'écrire d'autres façons, d'autres points de vue.
Et alors, ce sont des personnages qui sont, ces deux personnages qui vont se rencontrer, ils sont abandonnés, ils ont un sentiment d'abandon très fort, ils sont repliés.
Oui, oui. Mais c'est, le livre, c'est surtout sur la solitude, sur le besoin que nous avons des autres, le besoin d'amour à l'enfance et dans toute notre journée jusqu'à la fin. Parce que je suis une personne qui vit seule et je suis déjà bien avec cette idée de vivre seule, mais parfois je sens qu'il me, il me manque quelque chose de plus. Et ce qui me manque sont les autres. Les autres me manquent.
Ce qu'on voit dans votre livre, ce qui manque, c'est de la tendresse, de la douceur,
oui,
de l'attention.
Oui, oui, oui.
Alors, allez, je vous en prie d'abord. C'est cet endroit-là qui manque quand même.
Oui, c'est ça, c'est ça. Mais moi, j'ai choisi, je ne veux pas, je n'aime pas écrire sur l'amour. Je n'aime pas écrire sur l'amour. Et alors, j'ai décidé que les deux personnages, ils vont être des amis. Et seulement ça.
Pourquoi vous n'aimez pas écrire sur l'amour?
Je ne crois pas. Je crois pas à l'amour. Je crois qu'on se fascine les uns pour les autres et que ça a un temps de durée. Il y a un temps de durée. Mais...
Vous croyez plus en l'amitié, en tout cas.
Comment ?
Vous croyez plus en l'amitié.
Oui, oui. Je crois que l'amitié, c'est un sentiment plus...
Sécure.
Sécure, oui, c'est ça. Plus sécure. Et je n'aime pas écrire sur l'amour. J'ai des horribles expériences amoureuses. Je ne veux pas. Tout ce que je veux dire sur l'amour, c'est pessimiste.
Et en même temps, il y a aussi l'amour filial, l'amour avec
l'amour
les
filial,
les parents.
C'est toujours au ciel, l'amour filial. La mère, le père, ça, ce sont des dieux. Mais les hommes, pour qui aiment les femmes, moi, je ne crois pas. Moi, je ne crois pas.
Ah, vous avez une théorie, une réflexion sur l'amour filial des pères. Vous me le disiez tout à l'heure, là, sur le travail que vous êtes en train de faire en ce moment.
Ah oui.
Et vous avez une réflexion intéressante aussi sur le travail, entre autres, d'Isabella Figueredo.
Oui, mais là, c'est un travail littéraire et c'est une... Je suis en train d'étudier le personnage du père, la figure du père, dans les romans d'Isabella Figueredo, mais aussi de Peixoto, on va dire en français, voilà, qui a aussi beaucoup écrit. Le personnage est très important, le personnage du père. Et deux autres écrivains hyper contemporains, Tania Gagne et Hugo Sauvage. Je pense que le personnage du père est souvent, en effet, très, très important. Dans un pays comme le Portugal, où pendant très longtemps, en fait, c'était la mère. Il n'y a pas qu'au Portugal, hein, en France aussi, c'était ça aussi. En fait, c'était la mère qui s'occupait des enfants. Donc, le rapport était celui des enfants, pas avec, avec leur mère. Alors que maintenant, évidemment, les choses ont évolué et que le personnage du père est de plus en plus important. Et tous ces écrivains, là, je parle des écrivains portugais particulièrement, tous ces écrivains qui sont très récents, enfin, qui publient depuis les années 2000, hein, on a décidé de dire que les pères contemporains, c'était à partir des publications, à partir des années 2000. Les années 2000, après, il va falloir évidemment évoluer, changer dans le temps. On a trouvé que le personnage du père devenait extrêmement... Enfin, moi, j'ai trouvé qu'il devenait extrêmement important. temps, et donc je suis en train de réfléchir et d'écrire là-dessus. Mais ça m'amuse qu'Isabelle dit sur l'amour des hommes et les femmes qu'elle n'y croit pas, surtout dans un pays où on a quand même un petit fond très romantique. Hein, où... Et donc ça doit quand même...
Non. Pas moi.
Oui, mais la plupart des gens, si. C'est ça, c'est l'originalité, une des originalités d'Isabelle.
Prenez c'est... votre micro.
Et oui. J'aime mon père.
Et ah, mais c'est ça le problème.
Mais ça suffit. Ça me suffit.
Alors, parce que ce père, dans le livre-là, on voit bien, à un moment donné, il va changer de vie, le père du narrateur.
Je déteste le père. Dans ce livre-là.
Dans ce livre-là, vous le détestez ?
Oui, je le déteste. Et si vous lisez avec attention, vous voyez que je ne suis pas sympa avec lui.
Non, vous n'êtes pas sympa avec lui, mais en même temps, moi, je me suis posé une question un peu intrigante. Est-ce que ce père part parce qu'il est homosexuel ?
Ah, oui.
OK. Oui. Et en fait, c'est marrant ce que vous dites, vous ne l'aimez pas, mais en même temps, il n'a pas tellement d'autre choix que de partir.
Il n'a pas d'autre choix. Il n'a pas d'autre choix. Il vivait avec une femme. Le mariage, c'était une façade. Il sort de sa maison sans que la femme sache la vérité. Je crois que la femme ne sait pas. Elle veut à savoir après qu'il va vivre avec quelqu'un. Homme. Mais je crois qu'il était rigide avec la femme, il était froid. J'ai pas été sympa avec lui.
Et son fils, le narrateur, est-ce qu'il le sait? Est-ce qu'il l'a compris?
Non, il ne le comprit pas. Peut-être quand il est déjà adulte. Mais il ne comprend pas ça. Même quand il va passer les week-ends, les fins de semaine avec le père et cet homme qui vit avec le père, qui est très organisé, qui organise les vêtements de son père, pour moi, il ne découvre rien. Mais je donne beaucoup de pistes.
Oui, vous donnez beaucoup d'éléments, mais en tout cas, vous ne dites pas du tout qu'il s'agit de ça.
Mais je n'aime pas donner le travail déjà fait au lecteur. Non. Vous devez comprendre pour vous-même ce que je veux dire. Je vous dis que cet homme, il n'aime pas la femme, il veut s'en aller, il a rencontré un autre homme, ils vivent les deux dans la même maison, ils vont pour Angola pour travailler dans un pays nouveau, et... Mais je ne vous dis plus que ça. Vous devez comprendre ce que vous voulez.
Et alors? Juste, j'ai encore une question à vous poser. Comment vous faites pour vérifier la traduction? Comment ça se passe?
Ah, je ne vérifie pas.
Eh oui. Alors, comment vous faites pour livrer un texte dans une autre langue?
Non, mais je ne peux pas le faire. Imaginez, je suis traduite en allemand. Je ne sais pas un mot d'allemand.
Mais quel est votre critère sur la personne qui va traduire
votre
livre?
Ah oui. Je demande savoir qui est la personne qui va traduire, oui. Quelle est sa proficience en portugais?
Alors, qu'est-ce qui vous séduit? Comment est-ce que vous adoptez un traducteur?
Non, c'est pas possible de faire ça. Non, pour moi, c'est pas possible.
Non, mais comment vous aimez un traducteur? Comment vous choisissez un traducteur plutôt qu'un autre? Quels sont les éléments qui font que...
Eh bien, en français, j'aime bien ma traductrice. Elle s'appelle Myriam Benaroche.
Oui, c'est ça. Oui.
Myriam Benaroche. Elle est venue d'Algérie, il y a beaucoup de temps. Elle est déjà un peu âgée. Et j'aime bien la façon, j'aime son enthousiasme. L'enthousiasme de Myriam me montre qu'elle aime mes livres, qu'elle veut vraiment les traduire pour le français, les faire connaître à ce monde, ici.
Et, en fait, votre critère pour choisir, c'est de l'émotion?
Oui. Mais dans des autres langues, non. Par exemple, maintenant, je vais être traduit en toutes les langues indiennes. L'hindi, le tamil et le singalish, Sri Lanka. C'est impossible. Je connais pas les langues. Je vais être traduit en arabe. C'est impossible.
Oui, mais alors, parce que ce soir, nous sommes dans une soirée un peu particulière sur la journée mondiale de la langue portugaise. Donc, se pose la question quand même. Ça, c'est une question que je me suis posée, moi.
Je sais ce que les autres disent. Par exemple, quelqu'un, et c'est pas le premier, un ami allemand m'a dit que le carnet des mémoires coloniales, c'est pas très bien traduit en allemand. On m'a dit ça. Je dois croire parce que je ne sais pas allemand.
Alors vous, Anna Maria Binet, qui parlait toutes les langues, ou presque, est-ce que vous êtes arrivée de lire un auteur dans plusieurs langues pour vérifier, pour regarder, en tout cas, pas vérifier au sens du contrôle, mais
oui,
appréhender plutôt l'émotion qui se traduit?
Ben, c'est-à-dire que quand je travaille sur un auteur, je l'ai fait pour Pessoa, par exemple, qui a été traduit en français, en anglais, en beaucoup de langues, ou d'autres auteurs, évidemment, j'aurais tendance à aller voir comment est-ce qu'on l'a traduit, etc. Alors, je peux être d'accord ou pas. Maintenant, je ne peux rien faire, c'est comme dit Isabelle. Oui. Voilà, je peux être... Enfin, si je publie quelque chose dessus, je peux quand même dire que je ne suis pas d'accord avec la traduction. Ça, c'est sûr. Quand j'écris un article ou quelque chose, je peux dire je ne suis pas d'accord avec ces traductions, je propose celle-là. Voilà.
Est-ce que c'est la limite de tous les auteurs? Et ce sera ma dernière question. Est-ce que c'est la limite de tous les auteurs qui sont traduits, finalement? C'est qu'à un moment donné, la délicatesse de votre texte vous échappe à partir du moment où il passe dans une autre langue?
Moi, je suppose que oui. De toute façon, enfin, l'expérience me dit que oui, évidemment. On ne peut pas tout traduire. Il y a un côté idiomatique, par exemple, dans une langue, qui est pratiquement intraduisible dans une autre langue. Donc voilà, alors après, on s'approche, on fait de son mieux. Mais c'est évident, moi, je lis toujours dans la langue
originale.
Ah oui, dans la langue originale, tous les auteurs qui écrivent dans une langue que je connais. Ça, c'est sûr, je fais l'effort. Par exemple, je fais l'effort de lire en espagnol, c'est dire. Hein. C'est dire que c'est un effort, parce que bon, ça me plaît pas trop, mais je le fais exprès, parce que j'arrive à comprendre. Donc, je lis en espagnol aussi. Je lis dans les langues, parce qu'évidemment, on perd quand on lit une traduction et on perd toujours quelque chose. Chaque langue a une âme, en quelque sorte, hein, et on perd un petit peu de cette âme en traduction. Ça, c'est un fait.
Je veux demander votre aide.
Mettez votre micro devant la bouche. Mettez votre micro, le micro, le micro.
À la bouche, devant la bouche. Oui. Je veux demander votre aide pour raconter une petite histoire sur la traduction de ce livre.
Oui, on peut, bien sûr. Allez-y, je vous en prie. Mais prenez votre micro aussi, s'il vous plaît.
Alors...
Vous pouvez la raconter en portugais. On sera très contents de vous entendre parler
oui,
portugais.
Oui, oui. Mais je vais commencer en français. Le personnage principal ici à ce livre, il s'appelle José Viriato. Et il vit de ramasser des déchets dans les rues.
La nuit, il fait les poubelles.
Oui.
Et il récupère le plus d'éléments possibles qu'il restaure, qu'il recycle et qu'il revend.
C'est ça. Il revend dans des foires. Dans des foires qu'il y a au Portugal tous les mardis et samedis à Lisbonne, en marché aux puces. Et il y a toujours les week-ends des foires, des petites foires d'antiquités, des choses comme ça. Et il vit de ça. Alors, il n'est pas riche, il vit de peu, il gagne peu, mais il vit de ça. Et ici, quand on était en train de traduire, a Myriam disse-me, tenho aqui um problema.
Myriam lhe a dit, j'ai un problème ici.
Tu falas de um tanque da roupa onde ele lava as coisas e um tanque da roupa não existe em França.
Ah, elle lui dit, tu parles d'un lavoir. C'est un lavoir où, justement, le protagoniste principal lave ses affaires qu'il ramasse. Mais et en fait, ça n'existe pas. C'est-à-dire que dans les maisons portugaises avant, il y avait à l'arrière, il y avait une sorte d'un lavoir. Il y avait une partie où on frottait et une partie où on rinçait. Voilà, en ciment, hein, quelque chose qui... Voilà. Et bon, ça n'existe plus, évidemment. Il y a des machines à laver comme partout. Mais c'est une réalité, en effet, qui est difficile à traduire. Je suppose que c'était
ça
le problème. Comment vous
parce que c'est une réalité qui n'existe ici, je crois. Elle m'a dit, les lecteurs, ils ne vont pas comprendre. Et moi, j'ai dit, alors, qu'est-ce qu'on fait? Et elle a proposé de mettre, de pôr uma torneira no quintal, uma simples torneira.
De mettre un robinet dehors, dans le patio.
Extérieur. Onde a personagem principal ia lavar os objetos recolhidos.
Où le personnage principal, en fait, allait laver ces objets qu'il prenait dehors. C'est-à-dire qu'elle a dû faire une adaptation, en fait.
Oui, elle a fait une adaptation.
Et voilà comment on invente le tuyau d'arrosage. Je vous remercie toutes les deux pour cette soirée. Et on espère que vous continuerez à être tout à fait bipolaire, Isabella Figueiredo. C'est toujours une joie de vous lire. Merci, Anna Maria Vinet.
Vous devez lire mes autres livres parce qu'il y a de l'amour. Pas. De l'amour tourmenté, mais il y a de l'amour.
Ce sera l'objet d'une prochaine rencontre. Merci à toutes les deux.